Chapitre 42. La rivière souterraine jaillissait de la paroi rocheuse de l'immense salle en une cascade puissante qui produisait un grondement assourdissant. Le tonnerre se répercutait sous le dôme de roc de cette caverne vaste comme une cathédrale, située à plus de 70 mètres sous le pic de Montségur. Un large canal en hauteur captait l'eau avant qu'elle ait touché le sol, pour la conduire jusqu'à une imposante roue à aubes qui tournait en rythmant sa chute d'éclaboussures sonores. Non loin de là, d'immenses meules de pierre semblaient s'être tout juste arrêtées en attendant le prochain arrivage de blé à moudre. Le flot cheminait ensuite à travers une série de bassins, dont le premier était aussi grand qu'une piscine. Deux ponts enjambaient ces bacs, aménagés entre autres pour le bain et la lessive. Après quoi, la rivière poursuivait son cours par un canal incliné et rétréci dans lequel elle reprenait toute sa vitesse avant de disparaître dans les entrailles de la terre. Juste devant nous, autour d'une placette rappelant celle d'un village, s'élevaient trois bâtisses de pierre et de bois, hautes de deux étages, semblables aux maisons moyenâgeuses cossues des villes prospères de la région. Comme 4 ans auparavant, l'absence de ciel me rappela les décors construits en studio. Je jetai un coup d'œil à mon ami. Subjugué par la magie du lieu, il n'avait toujours pas dit un mot. Je dus presque crier pour qu'il m'entende. « C'est fantastique, tu ne trouves pas ?»« J'ai du mal à trouver les mots. Le moulin tourne depuis 8 siècles. »« Non, l'axe de la roue est monté sur rail. On peut l'arranger sous le canal. » Nous nous approchâmes. La rotation de la roue projetait une fine bruine aux alentours. Cette rivière souterraine desservait des puits. Les frères l'ont captée par en dessous. La cité avait ainsi sa propre alimentation en eau pure. De plus, comme beaucoup de cours d'eau dans la région, elle est aurifère. Elle charrie parfois des pépites d'or arrachées au filon qu'elle traverse dans son périple souterrain. Ça payait au moins les livraisons. C'est gigantesque! Comment ont-ils fait pour bâtir une salle aussi immense? C'est une cavité naturelle à l'origine qu'ils ont agrandie. Le plafond entier est une seule et unique dalle de calcaire. Une partie de la terre qui était au-dessous s'est éboulée lors de la construction, ensevelissant plusieurs frères au travail. Mais maintenant, il faudrait un tremblement de terre pour que cela bouge à nouveau. Alors c'est ici l'endroit le plus secret de la cité. Pour ce que nous en connaissons à ce jour, oui. L'eau était une denrée vitale, tout comme le grain qui y était entreposé. Dans ces maisons se trouvent les fours à pain. Le moulin entraîne également un système de ventilation qui assurait l'évacuation des fumées. La forêt, située au-dessus, tire son nom d'une légende née de ces fumées. On l'appelle la Forest del Fornière, la forêt du boulanger en occitan. Souvent, la nuit ou au petit matin, une odeur de pain chaud flottait dans les bois. Les gens du coin disaient à l'époque que les géants qui y vivaient par-delà les Pyrénées avaient leur fournil ici. Le nom est resté. Personne n'expliquera jamais d'où vient la légende. Tout était dans un parfait état de conservation. Les gonds des portes des maisons avaient peut-être besoin d'un graissage, mais la mécanique en bois du moulin et des machines qui l'entraînaient fonctionnaient toujours. La majorité des systèmes qui sont ici étaient en avance d'au moins 1 siècle par rapport à ce qui se faisait de mieux à l'époque. De la protection de cette salle jusqu'à l'exploitation de l'eau, tu as autour de toi un florilège de ce que l'esprit humain avait pu mettre au point. S'il y a un labo, ce serait logique qu'il soit assez proche. Il y a de l'eau, c'est à l'écart des autres quartiers, bien protégé. C'est aussi ce que nous avons pensé la première fois. Nous avons cherché, nous avons sondé un peu partout, sans résultat. Ni porte dérobée, ni mécanisme détectable, rien. Il aura fallu attendre le livre que Benoît a découvert pour trouver d'autres indices qui, étrangement, nous ramènent ici. J'invitai Nathan à entrer dans la plus grande des trois bâtisses. À l'étage supérieur, le mobilier de bois était encore en place. Nathan s'accouda à une fenêtre pour regarder vers la roue à aubes. Il était fasciné par tout ce qui s'étalait sous nos yeux. Qui ne l'aurait pas été? La roue tournait sans à-coup, relâchant ses paquets d'eau avec régularité dans un grand bruit d'éclaboussures. On imaginait aisément l'endroit au plus fort de son activité. Une trentaine de frères devaient travailler ici, se relayant en permanence pour alimenter la cité en eau, moudre le grain, préparer le pain, chercher les pépites dans la rivière, se laver et nettoyer le linge. À l'époque, ce lieu devait être le plus vivant de tout le complexe souterrain. Je savais maintenant pourquoi j'avais gardé un sentiment de malaise en achevant la première expédition. La voix qui, en moi, ne cessait de répéter que le laboratoire ne pouvait qu'être tout près du moulin, n'avait pas trouvé de réponse. Pire, les instruments avaient indiqué qu'il n'y avait rien à trouver. Cette même voix s'élevait de nouveau, plus forte que jamais. Peut-être à cause de l'urgence, peut-être à cause des textes retrouvés par Benoît. Plus sûrement parce que Nathan l'entendait aussi. Nous explorâmes, traversâmes les ponts, goûtâmes à l'eau cristalline de la rivière. Le temps n'avait plus d'importance. Nous visitions un autre monde où tout avait la couleur du bois sec et de la roche, l'odeur de la pierre. Je transmis à Nathan tout ce que je savais de cet endroit si fort. Nous cherchâmes une porte, davantage par un goût du jeu qui nous ramenait à l'enfance que comme les hommes que nous étions, ici plus encore qu'ailleurs. Je me souvenais de la première fois où j'étais venu au moulin, contenant ma joie et réfrénant mon envie de fureter partout et de toucher à tout parce que j'étais novice et que j'accompagnais mon maître. Peu à peu, avec Nathan, le sentiment de découvrir ce lieu pour la première fois et en toute liberté prit le pas sur tout autre. Chaque pièce de bois, mue par la roue à aube, nous fascinait. La transmission d'une énergie si simple et pourtant si puissante à tous ces éléments qui, dans un enchaînement parfait, prenaient vie, avait de quoi ravir les instincts de bâtisseurs de tous les corps de métier. Nous fîmes tourner les meules, observâmes les bassins pour en déduire l'usage. Une pente douce avait peut-être servi à savonner les étoffes. Les bacs à faible profondeur devaient avoir été utilisés pour filtrer ou teindre. L'eau était glacée. Elle était restée l'unique visiteur de ce lieu pendant près de 8 siècles. Personne d'autre qu'elle n'était passé ici. Le sourire de Nathan ne le quittait pas. Ses instincts se graveraient probablement dans notre mémoire de manière indélébile, comme le font les plus fabuleux souvenirs d'enfance. L'espace de quelques instants, nous retrouvâmes l'innocence, la joie que procure la découverte d'un secret et l'illusion que le monde aurait toujours des mystères aussi beaux que celui-ci à offrir. Nous ne trouvâmes aucun laboratoire dissimulé, mais je redécouvris une part de moi-même que je croyais perdue à jamais. Comment décrire ces minutes où l'existence n'a plus de poids, où rien ne peut entamer la foi que l'on a dans la vie? Ces instants si rares sont au-delà de l'explicable. On les ressent, on les reconnaît, on les recherche, mais personne n'a le pouvoir de les provoquer volontairement. Je suis convaincu que les lieux gardent un peu du bonheur ou des souffrances que l'on y dépose. Ce moulin sous la terre porterait à jamais la force de ce que nous y avions ressenti. Intrigué par les fours à pain, je réussis à me glisser dans l'un d'eux. L'intérieur était tapissé de noir de fumée. J'observai l'assemblage en dôme des briquettes. La régularité de leurs dimensions et de la pose était remarquable. Le conduit de cheminée devait encore être en état de fonctionner, car en approchant la main, je sentis l'appel d'air. Et si l'entrée du labo était dans un des fours? Les radars de sol, les détecteurs à induction pulsée et les scanners 3D n'avait rien donné la première fois, mais les recherches dans un tel environnement étaient malaisées. Je ressortis, couvert de suie et de poussière, et me mis en devoir de visiter les autres fours. J'observai leur intérieur avec minutie. Mes mains étaient noires, je respirais de la suie et j'avais mal au dos à force de contorsion. J'entamais la visite de l'avant-dernier lorsque j'entendis la voix de Nathan couverte par le bruit de l'eau. Je tendis l'oreille. Aucun doute, il m'appelait. Je me précipitai. Sa voix venait du fond de la salle, de la rivière. Il se tenait debout au milieu d'un bassin peu profond et gesticulait.
« J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Viens !»
Je stoppai au milieu du pont, au-dessus du bassin dans lequel il piétinait. Il s'approcha en marchant dans l'eau et me tendit son poing levé. Il ouvrit doucement la main, révélant une pépite d'un superbe jaune de la taille d'une petite noix.
« De l'or ! Je l'ai vu briller au fond !»
La masse irrégulière aux formes polies par l'eau luisait sur sa paume mouillée. « On partage ? » dit-il. « Ce sera notre souvenir ? Un porte-bonheur ?» Il regarda son trésor dans le creux de sa main. Je lui tendis mon couteau. Il s'agenouilla dans l'eau et posa la pépite sur le rebord du bassin. Après quelques efforts, le précieux métal accepta de se diviser et il m'en donna une moitié. Il était ému, moi tout autant. Je n'avais jamais eu l'occasion de prêter serment en signant de mon sang comme le font parfois les enfants au fond d'une cabane avec l'ami qu'ils souhaitent garder toute leur vie. Jamais je n'avais connu l'innocente ferveur de ces rites, mais j'en mesurais toute la force. Nathan et moi, nous jurâmes sans le dire de ne jamais égarer ou mépriser ce symbole. Nous enfouîmes chacun notre part dans notre poche. Nathan était trempé et moi noir de suie. Nous avions déjà 3/4 d'heure de retard pour le déjeuner et il allait falloir nous changer avant de nous présenter au réfectoire. Nous regagnâmes la sortie en regardant tout autour de nous pour ne rien oublier, comme si nous avions le pressentiment que plus jamais nous ne pourrions prendre le temps de revenir ainsi goûter aux illusions de ce monde magique. J'éteignis les projecteurs les uns après les autres. Nathan attendit le noir complet pour allumer sa lampe. Je tirai la porte derrière nous, rendant le moulin à sa nuit séculaire. Le mécanisme du verrouillage s'enclencha, la porte redevint une surface lisse. L'épais panneau de bois atténuait le bruit de l'eau. En silence, chacun de nous rangeait déjà dans sa mémoire ce que nous venions de vivre. En refermant la porte du moulin, nous avions rompu le charme. Le temps avait de nouveau prise sur nous, nous étions redevenus adultes, responsables et réalistes. Mais Nathan et moi avions désormais une chose de plus en commun. Un souvenir incroyable et des sentiments rares. J'avais moi-même du mal à croire à cet état d'esprit qui avait été le nôtre quelques minutes auparavant. Heureusement, chacun de nous le rappellerait à l'autre, et la pépite serait là pour nous prouver que tout ceci n'avait pas été un rêve. Et tant mieux si elle nous portait bonheur. La nuit allait tomber dans moins de 6 heures, et elle n'aurait rien de paisible.